Les causeries de Charlie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie autour du dernier numéro. Alors, un numéro avec un petit garçon qu'on vient de retrouver, un jeune mineur isolé qui vient de réapparaître, c'est le petit Émile. Alors, un garçon qui est effondré sur ma droite, parce qu'il pensait que c'était un oiseau qu'il avait pris, qu'il élevait à présent dans son nid, et bien il vient d'apprendre la catastrophe, c'est M. Gérard Billard.
Non, ça c'est juste Lapin qui pensait que c'était un aigle qu'il l'avait pris.
C'est vrai.
Voilà.
Donc Gérard.
Moi je misais tout simplement, comme d'habitude, sur Dutroux, mais c'était pas lui.
Non, c'est pas le bon département.
C'est pas le bon département.
C'est pas le bon département.
Dutroux n'a pas été réintroduit dans les Hautes-Alpes.
Non.
Non.
Voilà.
C'est une espèce en voie de disparition.
Alors, cette petite assise vient de Monsieur Join. Bonjour Monsieur Join, qui nous parlera lui d'un héros national tout à l'heure.
Salut Fouz. Repos.
Monsieur Join, nous avons Lord aussi.
Bonjour
Lord aussi. Et Colline Redaud.
Renaud, bonjour.
Renaud, pardon, Renaud. Oui, parce que c'est Lorraine Redaud et Colline Renaud.
Ah là, mais ces deux filles, en plus, on les confond, c'est pas grave.
Bah oui, mais tu sais comment c'est. Non, c'est lamentable de me confondre et je m'excuse auprès des auditeurs.
Excuse-toi, l'acte de contrition.
Alors, nous allons entrer. Oui, alors nous disions ce petit ami qu'on
maintenant,
a retrouvé.
Maintenant, il prend des rames,
enregistre là.
Oui, ça enregistre.
Oui, bah oui, c'est bien ça qui est déplorable.
On refaisait tout le début.
Non, pas du tout. On continue comme
on
ça.
Assume.
On continue comme ça à l'américaine. Et donc ce petit Émile qu'on a retrouvé, c'est un petit peu.
C'est la Lune. On parle de la Lune.
On parle de la Lune parce que toi, t'aimes bien qu'on nous décrypte un petit peu comment on a fait la Lune.
Ah oui.
Effectivement.
Plein de gens ne. Effectivement. On a chaque fois.
Ce petit Émile, alors bizarrement ou pas, c'est devient le sujet primordial en France aujourd'hui. Tous les journaux sont.
Bon, après les enfants qui disparaissent et les meurtres ou les disparitions non résolues, ça a toujours excité les médias. C'est d'ailleurs le sujet de la Une. C'est le nonos qui excite la meute.
La meute, c'est
la meute des caméras. En fait. Donc ça a toujours ce genre de faits divers.
Oui, parce que le dernier petit garçon comme ça, c'était le petit Grégory un petit peu qui nous avait...
Là, on rentre dans la même catégorie, oui, qui était...
Il
y a eu la petite Maëlys aussi qui a été retrouvée un temps après, on a retrouvé les ossements. Etc.
Oui, c'est vrai, oui. Mais le petit Grégory était plus humide.
Il était plus humide, et puis l'ambiance était plus humide aussi.
Non, puis l'époque, on tirait des règlements de compte.
Et puis surtout, il y avait quand même de grands écrivains pour en rendre compte.
Absolument.
Il y avait quand même Marguerite Duras.
Marguerite Duras qui était venue dans la cuisine des parents.
Exprès de Saint-Germain-des-Prés dans la cuisine des parents.
Et à l'époque, la téléportation n'existait pas, donc elle a dû s'y rendre par ses propres moyens. Donc il faut imaginer Duras qui arrive dans la cuisine des parents comme ça.
Est-ce qu'il y aura Annie Ernaux
je crois qu'elle est pressentie
pour parler un petit peu de ce fait divers étrange.
Ça a suscité beaucoup de
pour aller causer religion avec le grand-père.
Ça a causé beaucoup de réactions en raison du fait que les parents et la famille est plutôt proche de l'extrême droite radicale, et je pense que c'est ça qui a suscité aussi beaucoup de interprétation de réaction.
Heureusement.
Ce qui ne justifie pas d'ailleurs qu'il y ait plus de.
Ça juste
que les médias soient. Les parents ont aussi droit finalement à leur
deuil,
qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche.
C'est ce que j'écrivais dans le. Heureusement, tous les tueurs d'enfants ne sont pas d'extrême droite.
Aussi.
Voilà.
Non, mais là, c'est les parents, vois-tu.
Mais c'est ce que j'écrivais dans mon petit reportage que
parents,
j'avais fait.
Parce que Colline
en juillet, j'étais allée sur place en juillet et je disais si la même affaire avait eu lieu à Meaux, dans un pavillon de banlieue avec des parents fonctionnaires, en fait, l'affaire n'aurait sûrement pas fait autant parler. Là, il y a le contexte social avec des parents extrêmement catholiques, un grand-père qui était violent apparemment, donc ce qui alimentait les rumeurs et qui fait qu'il y a eu autant de médiatisation sur cette affaire.
Oui, et puis c'est très médiatique parce que là on peut boucler le village.
Est-ce que Meaux,
à Meaux il y a quand même Jean-François Copé. Hein. Mais t'imagines à Meaux le gamin qui part sur un kilomètre comme ça, il risque pas de tomber d'une falaise ou de tomber sur des loups.
Oui, il y avait le huis clos dans la montagne avec les falaises partout, les animaux sauvages. Enfin, en fait. Il y avait tout l'imaginaire autour du lieu aussi.
Oui, c'est vrai, c'est un petit conte, un petit conte un peu effrayant.
Oui, c'est
un petit peu effrayant, mais quand même.
Le petit Émile s'est perdu dans la forêt.
Oui, c'est ça.
Qui l'a mangé?
Ça nous renvoie un peu à nos peurs d'enfants, en plus.
Non.
Bah, moi, j'espère qu'il n'a pas été effectivement oublié, parce que vaut mieux qu'il ait été renversé par une voiture rapidement plutôt qu'oublié dans la forêt.
Mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui se perdent et qui meurent. Et il n'y a pas de meurtrier, il n'y a rien. Des enfants qui se perdent et qui meurent, c'est ça
alors,
qui se passe.
Alors là, c'est le tueur d'enfants qui parle. Ouais, beaucoup de suicides chez les enfants aussi.
N'essayez pas de vous dire, me chercher
une croix. Tu en croises beaucoup dans les forêts, tu te balades.
T'étais où, toi, au mois de juillet, l'année
dernière? N'essayez pas de venir me chercher ou quoi, il a fait ça tout seul. Il s'est perdu.
Et pour le coup, je pense que c'est intéressant.
Il m'a pas écouté.
Pour le coup, les milieux d'extrême droite trouvent que c'est une forme d'injustice que ce soit autant médiatisé parce que les parents sont d'extrême droite. Si on veut être très juste là-dessus, je trouve que... Est-ce que c'est le cas ou pas ? C'est vrai que si ça avait c'était passé plus inaperçu, si ça avait été un milieu plus classique, enfin voilà, on ne sait jamais. C'est toujours un peu étonnant de se demander pourquoi
un
fait divers est médiatisé ou pas.
C'était pareil, c'était aussi dans un petit village. Le contexte, alors effectivement, les parents sont pas d'extrême droite dans le cas du petit Émile,
mais du petit Grégory.
Tu vois,
mais là, c'était pareil, c'était une fresque sociale à l'époque, et c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans une autre catégorie.
A lieu, une dramaturgie, enfin, on est parti pour un petit moment, là.
Voilà.
Des nouvelles théories, des nouvelles expertises.
C'est étonnant aussi, les parents, ils ont beaucoup de gamins, je crois.
Alors non, en fait, c'était ça qui était étonnant. C'est les grands-parents avaient une cinquantaine d'années, et les parents ont 20 ans, ou une vingtaine d'années. Donc
ils avaient qu'un enfant.
Mais comme on dit chez les intégristes,
plus sur le quantitatif que
un
sur
gosse
le
de perdu et 10 d'accoucher. Donc
la moisson. C'est
la citation de ton article.
Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que le grand-père a 50 ans, donc
c'est pas. Tu dis comme on dit chez les intégristes.
Ça donne une modernité au con, ce grand-père de 50 ans.
Oui, ce grand-père, c'est... Voilà,
on voit quelqu'un d'un petit peu penché sur une canne, pas du tout.
Non, il est kiné en plus.
Je le grand-père du petit Émile, tu vois. Mais du coup, je suis un peu touché. Bref, donc je crois qu'on clôt pour l'instant la page Émile.
La page Émile, on reste sur les mineurs.
On reste sur les mineurs isolés. Parce que toi, Laure... Tu as été les rencontrer à Metz.
Tout à fait.
À Metz. Et donc, alors ces mineurs isolés, c'est quoi ? Ce sont des migrants.
C'est ça qu'on appelle des jeunes migrants. C'est les plus jeunes des migrants, en fait, tout simplement. Mineurs non accompagnés ou mineurs isolés, c'est comme ça qu'on les appelle. Et moi, en fait, j'ai suivi une bénévole à Metz. Qui d'ailleurs a un parcours de vie absolument incroyable parce qu'avant elle travaillait dans une banque pendant 17 ans et elle a été tombée gravement malade et ensuite elle a changé radicalement de vie et aujourd'hui elle consacre toutes ses journées à l'aide de ces jeunes migrants avec cette spécificité en fait elle aide ceux qui sont dans une tranche d'âge qui est le plus complexe en fait administrativement et juridiquement. Ces jeunes sont un peu dans un no man's land administratif et juridique. Pourquoi ? Parce qu'ils revendent ils se disent mineurs et certainement ils le sont, mais ils doivent le prouver. Et l'aide sociale à l'enfance, en fait, opère une sorte d'évaluation qui semble quand même, la plupart du temps, un petit peu au petit bonheur la chance. Ils évaluent leur comportement. Il y en a qui disent, on joue au foot devant des éducateurs, on a eu quelques entretiens avec les éducateurs. Et au bout d'un certain nombre de jours, normalement c'est 5 jours, mais d'ailleurs il reste beaucoup plus longtemps dans ces évaluations, au bout d'un certain temps, le couperet tombe, on leur dit non, on considère que vous n'êtes pas mineur. Et là, ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ils sont comme les autres migrants, c'est-à-dire sans papier, sans droit, mais sauf qu'ils sont tout jeunes, donc beaucoup plus vulnérables. Et eux, ils veulent. En fait, ils sont dans un no man's land administratif parce qu'ils n'ont pas droit à ce à quoi ont droit les adultes migrants et en même temps l'ASE ne les reconnaît pas. Donc c'est deux fois plus de difficultés pour eux, sachant qu'en plus ils ont tous des parcours extrêmement difficiles et que ils sont vraiment tout jeunes, vulnérables.
De soins en psychiatrie, certains d'entre eux, etc. Absolument. Et donc même pour ouvrir des soins médicaux, c'est difficile.
Même pour les soins médicaux, c'est un peu absurde parce que j'ai un cas par exemple où l'ASE ne l'a pas reconnu comme mineur, mais l'hôpital considère qu'il est bien mineur. Voilà. D'ailleurs, c'est un jeune qui a été hospitalisé dans le couloir de la pédiatrie, parce que la pédiatrie, c'est pour les enfants jusqu'à 18 ans, en fait. Donc, il est dans un couloir avec des nounours, des dessins d'enfants partout. Parce que l'hôpital considère qu'il est mineur, mais pour le faire entrer à l'hôpital, il a fallu avoir une autorisation de son responsable légal. Or, ces jeunes, comme ils ne sont pas reconnus par l'ASE, n'ont pas de responsable légal.
Donc, il y a des adultes qui signent
les papiers, mais ce n'est pas complètement dans les clous. Mais voilà, c'est une espèce d'entre-deux comme ça, un peu compliqué pour eux, quoi.
Mais là, du coup, alors, s'ils sont à la rue, elle leur donne un hébergement ? Comment ça se passe ?
Alors, elle essaye de les mettre en lien avec les différentes aides. Elle fait ce qu'elle peut dans la mesure de ce qui est proposé. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant ce reportage parce que j'ai pu la suivre sur toute une journée et on a différentes histoires de migrants qui sont tous assez complexes et intéressants.
C'est assez drôle. Enfin,
et
pas
on se dit
drôle,
pourquoi
mais...
aussi un migrant arrive à Metz,
voilà,
par exemple.
C'est pourquoi Metz, alors qu'en fait, les gens arrivent dans des lieux par hasard
c'est
complet,
ça,
même
c'est,
en France.
C'est ça. Parfois,
par
c'est
hasard.
Aussi pour rejoindre. Ils se disent qu'il y a peut-être une communauté qui est déjà présente, donc ils espèrent avoir de l'aide de leur communauté, mais parfois, c'est un pur hasard. Il y en a un, par exemple, il vient de Côte d'Ivoire. Il a traversé la Méditerranée en bateau, au péril de sa vie. Après, il est arrivé à Paris. À Paris, il a vécu une semaine dans la rue. Il a eu très froid. Là, il s'est dit, j'en peux plus. Alors, il a pris un peu un train au hasard. Et là, à Metz, n'ayant pas de billet, le contrôleur lui demande de descendre. Et il descend à Metz.
Et, voilà.
Et là, il dit qu'il est mineur. Donc là, les policiers, heureusement, respectent la loi et l'emmènent à l'ASE. Là, il a cette évaluation pendant quelques semaines. Là, on lui dit, non, monsieur, vous n'êtes pas mineur d'après nous. Et là, on le conduit dans un hôtel où il a 15 jours maximum d'hôtel. Et après, bam, c'est à nouveau la rue. Et là, c'est là où les jeunes se donnent entre eux le numéro de Sandra, que je suis. Et Sandra est un peu leur ange gardien à ce moment-là, parce qu'elle essaye de mettre en place différentes choses pour pas que ces jeunes se retrouvent à la rue. Et donc, par exemple, en ce qui concerne ce jeune, il a pu ensuite avoir une aide, quand même un logement et être scolarisé. Et c'est des jeunes qui comprennent pas, parce qu'ils font quand même... Enfin, on a... Le problème majeur, c'est qu'on a quand même une image de ces jeunes comme étant des délinquants. Enfin, l'extrême droite a beaucoup propagé cette image-là, comme quoi ce seraient des jeunes qui seraient dangereux, etc. En fait, c'est sûr, moins on s'occupe d'eux, plus ils risquent de devenir dangereux.
Oui, puis ils
mais
être
là,
la
ceux que j'ai rencontrés, absolument, de trafic,
etc.,
d'extrémistes religieux, etc. Mais ceux que j'ai rencontrés, ils veulent vraiment s'intégrer, ils sont scolarisés, ils donnent tout ce qu'ils peuvent.
S'ils sont mis dans des circuits, dans des parcours
et
adéquats,
c'est ça.
Et
par exemple, même ceux qui sont à l'école, ils suivent une formation, ce jeune, pour être serrurier dans le bâtiment, serrurier métallier. Et parce que c'était là où il y avait de la place, en fait. Il voulait carrossier, mais il y avait de la place dans cette formation. Donc, il la suit, il est très bon, etc. Il a des propositions d'apprentissage, mais il ne peut pas les suivre parce qu'il n'est pas régularisé. Et donc, le patron, il prend... parfois, ça arrive qu'il prenne des sans-papiers, mais au risque aussi d'exploiter des sans-papiers. Et si le patron, il va être dans les clous, il attend que le jeune ait des papiers, mais c'est un cercle vicieux. Parce que tant qu'il n'en a pas, le jeune attend d'avoir une... Enfin, il ne peut pas avoir une activité.
Non, on dirait quasiment un fait exprès de l'administration pour que ces gens-là, pour que ça soit le plus compliqué possible.
On a l'impression qu'effectivement, l'idée, c'est que ce soit le plus compliqué, mais c'est au détriment de leur...
Parce qu'on pourrait totalement simplifier la chose. Par exemple, dire qu'ils sont de bonne foi en se déclarant mineurs, tu vois, parce que là, après, les gens qui font sur le comportement, je ne sais pas s'ils font encore des radios des eaux.
Ils font parfois des radios des eaux, c'est pas toujours fiable, m'a-t-on dit, mais ils en font, par exemple, et là, c'est arrivé qu'une jeune femme qui on avait dit qu'elle n'était pas mineure, en fait la radio des eaux a montré qu'elle avait 15 ans et pendant tout ce temps-là elle était avec des majeurs en centre de rétention. C'est une femme, par ailleurs, une jeune femme qui avait vécu un viol, enfin tous ont des parcours
absolument
violents. Comment
veux-tu évaluer le comportement de quelqu'un qui a vécu des telles choses, traversé toute l'Afrique, vécu des viols? Moi j'en avais suivi un, il avait été bloqué 2 ans en Libye aux travaux forcés avant de pouvoir continuer son chemin. Il venait de Côte d'Ivoire aussi, qui était dans les milieux isolés de Lyon. Donc, Donc après, évaluer ça pour dire si c'est un, est-ce que c'est un gamin de 16 ans d'ici ou est-ce que tu vois
Non, mais ça paraît totalement absurde.
Avec ce qu'ils vivent, en fait, ils vivent déjà 3 vies.
Oui, c'est ça. Donc,
Et on s'étonne qu'à 16 ans, ils n'aient pas forcément un comportement de 16 ans. Enfin, il faudrait qu'ils jouent à la marelle à 16 ans.
On pourrait très bien se dire que de bonne foi, ils disent vrai quand ils disent qu'ils sont mineurs.
Qui branlent rien, qui restent dans leur chambre.
C'est absurde. Non, mais c'est absurde.
Des erreurs.
Après, je pense que c'est un cercle vicieux parce que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, a très peu de moyens. Et même s'ils sont reconnus par l'ASE, c'est pas non plus la panacée. Parce qu'il y a une loi aujourd'hui qui dit que l'ASE ne doit plus héberger. Une fois que les jeunes sont reconnus par l'ASE, ces jeunes-là, normalement, ils ne doivent plus être dans un hôtel. Parce que c'est aussi un autre problème. Souvent, ils sont dans des hôtels un peu livrés à eux-mêmes. Mais c'est pas forcément le cas. Ils sont encore beaucoup hébergés dans des hôtels parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éducateurs, suffisamment de places en foyer. Donc, même s'ils sont reconnus par l'ASE, c'est pas la panacée non plus. On ne sait pas prendre en charge ces jeunes.
Il faut voir l'état des foyers, en plus. Enfin,
aussi, oui. Voilà.
Il y a des foyers sans éducateurs.
L'ASE,
sans...
même pour les mineurs qui ne sont pas des mineurs isolés, des jeunes migrants, l'ASE n'est pas du tout à la hauteur pour prendre en charge les jeunes qui sont retirés de leurs parents français. Donc c'est un cercle vicieux parce que voilà, je pense que si l'ASE en refuse autant, c'est que l'ASE n'a pas assez de moyens pour les aider. Donc c'est pas pour excuser l'ASE, mais c'est un problème global à prendre en compte.
Parce qu'ils ont en même temps un problème énorme, mais ils sont pas des milliers, ces mineurs isolés.
Non, voilà, il faut complètement
en plus,
relativiser.
À l'échelle d'une ville, ça peut être très bien géré. Bien sûr. J'étais à Lyon, à l'échelle d'une ville comme Lyon, ils pourraient être très bien pris en charge, si avec des moyens qui seraient pas énormes non plus pour l'État, etc. Parce que là, ils étaient à Lyon, justement, il y en avait qui avaient eu l'ASE, donc qui étaient scolarisés, ils avaient quand même bien dans le processus. Mais effectivement, ils vivaient dans des squats faits par des associations, sans courant. Etc. Quoi. Donc ils avaient tout bon, mais effectivement ils étaient obligés d'être toujours dans la précarité parce que ça suivait pas derrière au niveau de...
Puis on crée comme ça des quelque part, c'est comme ça qu'on crée entre guillemets des futurs délinquants. Enfin, on prend plus de risques, je pense, à les laisser comme ça sans soins, sans aide.
Alors, ces histoires,
outre que c'est vraiment pas respectueux des droits humains, des droits des enfants.
Ces histoires, comme tu dis, où les gens arrivent vraiment là par hasard, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire d'appel d'air ou etc. Le gars est parti de Côte d'Ivoire, a mis peut-être un an à traverser tout de l'Afrique, est arrivé ici et sans le savoir, a pris un billet de train, etc. Donc il y a pas donc chaque endroit où il arrive devrait avoir une solution. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
C'est une telle galère leur parcours.
C'est pas parce qu'un gars comme ça va être aider que tout le monde va se dire c'est à Metz qu'il faut aller.
Tu sais, à Metz, maintenant il y a le TGV, il y a le centre Pompidou, c'est la capitale de la Lorraine.
Metz, c'est un appel d'air. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais après, tu peux aller travailler au Luxembourg, frontalier.
En plus, les départements se l'airfilent. En plus,
oui, voilà, c'est ça l'idée. Alors, il y a une autre idée là-dessus qu'on apprend avec Colline, le reportage que tu as fait, c'est qu'il y a des départements qui se dit, eh bien nous, on ne les reçoit pas.
C'était un papier que j'avais fait en décembre sur le département de l'Ain, qui avait décidé du jour au lendemain qu'il n'accueillait plus les mineurs isolés. Parce qu'en fait, l'ASE est une compétence des départements. Ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème, parce que du coup, selon les départements, il y a plus ou moins de moyens. Et dans certains départements, il n'y a même plus du tout de moyens. Donc c'était le cas de l'Ain. Après, du coup, ça a donné des idées au Jura, qui a pris la même décision. Et à l'époque où j'écrivais le papier en décembre, on parlait même des Bouches-du-Rhône aussi. Et donc
pratiquement, ça se faisait comment?
C'est-à-dire qu'ils trouvaient porte close et qu'on leur disait allez voir changer de département. Donc on favorisait l'errance d'un département à l'autre et surtout on faisait que déplacer un problème.
Mais ils ont le droit comme ça de refuser
Ça a été retoqué par le Conseil d'État. Ils ont tout de même, ils n'ont pas réouvert de place. Et le problème, ce qu'on disait tout à l'heure sur le no age land juridique, c'est que comme ils ne sont pas majeurs, ils ne peuvent pas prétendre, par exemple, on m'avait dit, dans le Jura, dans l'Ain, ils ne pouvaient pas prétendre au 115, qui était pour les... Quand ils appelaient le 115, on leur disait, nous, on s'occupe des adultes, c'était en plein hiver, au mois de décembre, appelez l'ASE. Et l'ASE disait, non, nous, on n'accueille plus les mineurs isolés.
Le 115, c'est le SAMU social, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est le SAMU social. Pour trouver des places d'hébergement d'urgence, on était au mois de décembre, donc...
Il y a aussi cette chose aussi que... Pour avoir accès à d'autres droits comme le 115, il y a des mineurs qui vont se déclarer majeurs, faire un dossier où ils changent leur date de naissance pour être majeurs, et du coup, ils peuvent pas faire le chemin inverse.
Donc voilà, dire, c'est
mais
c'est
en fait, ben non, monsieur.
Et on va les accuser de mentir.
Voilà, c'est ça. C'est arrivé à un des jeunes que j'ai suivi où il a pas été reconnu par l'ASE. Du coup, et comme c'est un jeune afghan, il s'est dit je vais demander l'asile. Mais pour demander l'asile, il faut être majeur ou il faut avoir un responsable légal. Mais encore une fois, il n'en a pas puisque l'ASE ne le reconnaît pas, il n'a pas de parents sur le territoire. Donc il se fait passer pour majeur comme majeur pour demander l'asile. Et voilà.
Là, c'était encore pire dans ton histoire parce qu'il avait une prise d'empreinte en Italie.
Alors là, oui,
ça avait eu des conséquences énormes.
L'ampleur de leur problème. Parce que là, il découvre qu'il est ce qu'on appelle dubliné. Un processus Dublin, c'est que c'est le premier pays d'arrivée qui est chargé de la demande d'asile. Et là, le premier pays d'arrivée, c'est là où il a déposé ses empreintes. Et parce que parfois, les jeunes, dans leur parcours, s'ils sont arrêtés, la police fait croire qu'ils doivent donner leurs empreintes. En fait, apparemment, c'est pas le cas, mais bon, ils pensent qu'ils sont obligés de le faire. Et s'ils donnent ses empreintes dans un pays, tac, c'est ce pays-là ensuite qui est responsable et donc il doit repartir dans ce pays-là. Donc là, il fait des recours.
C'est même plus une question de département, ils doivent changer de pays.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le processus de Dublin. Donc mais ils sont face à un bordel administratif.
Oui, c'est ça.
Incroyable.
On essaye de s'en sortir et en fait.
Quand tu arrives à sortir de ça, tu peux bosser dans l'administration. Mais c'est comme si tu avais fait l'ENA.
Mais c'est comme ça qu'on devrait les percevoir en fait. C'est vraiment des gamins ultra courageux.
Non, c'est des gars qui ont traversé. Personne n'y arriverait d'entre nous.
Non,
à partir de Côte d'Ivoire et d'arriver à Metz, sans rien comme ça, personne n'y arriverait d'entre nous.
Déjà, il y en a qui parmi nous.
Je croyais que d'aller d'un bureau administratif à l'autre.
Donc bon.
Comme ici, il y a des bords, donc on comprend rien.
Voilà.
Non, puis en France, il y a quand même des gens qui ont la phobie administrative aussi, tu vois. Donc,
bah, apparemment, pour créer des lois pour emmerder les mineurs isolés, là, il y a des gens qui savent s'y retrouver, apparemment. Donc voilà, le parcours du combattant des mineurs isolés. Et en parlant
de combattant,
le parcours du combattant.
Oh merde. Transitions de merde.
Toi, on fait de la radio, hein, on fait du podcast, on essaye de trouver des belles. Tu
vois. Salut les jeunes.
Salut les jeunes. Alors pour les jeunes qui ont envie d'un peu d'ordre, un peu de gens référents un peu. Toi, tu t'es mis du côté d'un grand militaire français. Quel est-il ?
Alors,
Bijard.
On parle de la ville de Toul, donc du conseil municipal qui a voté l'érection d'une statue du général Bijard, qui est mort en 2010 et à laquelle s'oppose un collectif, la Ligue des droits de l'homme, un ancien combattant, parce que en Bijard ils reconnaissent avant tout un tortionnaire qui a torturé en Algérie, qui a commandé, qui a ordonné la torture, et donc ils s'opposent à ce projet de statue. Alors c'est une statue qui a été offerte à la mairie par la Fondation Général Bijard, qui a pour but de promouvoir les valeurs du général.
Qui a des moyens, quoi, parce que c'est une statue qui est belle, c'est pas n'importe quoi, elle est en bronze, elle est grande. Elle est...
Donc elle fait 2 mètres. Elle fait 2 mètres.
Comme le général Bijard.
Et ils projettent de l'installer. apparemment, l'installation de la statue, ça pourrait être le 18 juin, la date anniversaire de la mort du général Bijard.
Il est mort le 18 juin.
À Toul. Il est mort le 18 juin. Alors je sais pas, c'est la famille qui a annoncé le lendemain, ou c'est assez marrant, ouais. Ou pour laisser, tu vois, l'image du résistant, je sais pas quoi. Donc les arguments de la mairie, c'est de dire oui, mais on n'a pas de preuve qu'il a pratiqué la torture, il a jamais été condamné, contrairement à Pétain. Il a aussi été député, il a aussi été...
Oui, c'est ça, parce que Bijard, il appartenait à une époque un peu étrange, c'est-à-dire un peu les années 70, où assez tardivement, on le voyait sur tous les plateaux de télévision, parce que c'était un bon client militaire.
C'est très particulier aussi, il faut savoir, c'est un mec, il a quand même écrit 7 fois son autobiographie, donc je sais pas si c'était des oublis ou si à chaque fois il publiait des versions corrigées.
Non, il avait une très haute idée de lui-même, et effectivement, c'était assez partagé parce que les gens disent « Ah voilà, un homme à poigne, un esprit un petit peu militaire, on aime bien ça, interrogeons-le sur par exemple la jeunesse, il avait beaucoup parlé de la jeunesse, etc. » Il était interrogé
là-dessus. Alors, il faut savoir que Giscard, il l'a fait venir, en fait, il lui a demandé de se présenter comme député et il l'a nommé secrétaire d'État. C'était pour se rapprocher d'un certain électorat, quoi, tu vois. Et là, la question à Toul, c'est de savoir si le maire, qui est PS, alors c'est assez étonnant, il fait pas la même chose, en fait. Parce que c'est une ville où le Front National, en 2022, il a fait quasiment 50%, quoi.
Parce que le maire est d'accord pour les réactions
le maire,
de la statue.
Le maire est d'accord. Alors au conseil municipal, il y a peut-être 7 personnes qui se sont opposées. Je crois qu'il y a les communistes qui se sont opposés, puis peut-être d'autres. Mais voilà, le conseil municipal a voté à 2 reprises pour. En 2018, quand on leur a offert la statue, en 2023 pour ériger cette statue. Alors il y a eu une conférence qui a été organisée avec 2 historiens, Alain Rouchiot et Fabrice Ricciaputi, qui sont eux spécialistes de la guerre en Algérie, la torture, etc. Et donc ils disent, si Bijar il a jamais été condamné, c'est parce qu'au lendemain des accords d'Évian, en fait, il y a une disposition qui a été prise pour que les militaires ne soient jamais poursuivis pour les crimes qui ont été commis en Algérie. Donc en fait c'est une amnistie, mais c'est une auto-amnistie, quoi. On n'amnistie pas des gens, c'est l'État qui lui-même amnistié, quoi.
Bah, on continue, ça continue sur ce qu'on a toujours fait sur la guerre d'Algérie, c'est-à-dire en fait on n'en parle pas.
C'est gênant parce qu'on se dit que, enfin, tu vois, par exemple sur Papon, il y a eu un procès, donc il y a eu des choses qui en sont sorties, il y a eu des explications, enfin ça a eu des vertus pédagogiques en tout cas, je pense. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Alors là, c'est particulier comme cas, parce que c'est pas le cas de on déboulonne une statue, etc. Là, c'est vraiment on veut ériger une statue alors qu'on sait tout ça. Voilà, à Toul, il y a déjà une avenue Général Bijar, il y a déjà une plaque commémorative sur sa maison de naissance. Enfin, je sais pas, après, ils peuvent faire un...
Peut-être que ça suffit comme ça.
Ils peuvent faire un musée ou ils peuvent faire quelque chose comme ça. Mais après...
Avec des gènes, ça des gènes, etc.
Alors il paraît que Massu, qui lui a avoué
avoir... Un autre général.
Lui il a dit que la première fois qu'il avait vu une gène, c'était chez Bijar.
Ah, bah lui, du coup, que...
Alors oui. Ouais, je sais pas ce que ça donnera à Toul, voilà. Bon, ils ont d'autres personnalités comme Nadine Morano à Toul, voilà, c'est pas très brillant.
Il faudrait fondre Bijar et mouler Morano, du coup. Alors,
je sais pas, un nouveau
cheval de bataille peut-être qu'on pourrait mener.
Ils ont des grands personnages à Toul, hein.
Oui, vraiment, c'est fécond. Bon, donc tu vas nous suivre tout ça, voir si effectivement on peut fondre Bijar et mouler Morano.
Donc en tout cas, si vous voulez vous opposer à cette statue, il y a une pétition en ligne que vous pouvez signer. Non à la statue de du général
Gérard
Bijar. Non à la statue du...
C'est le même.
Du général Bijar dans l'espace public. Voilà.
Ah, dans l'espace... Tu peux en avoir une dans ton jardin.
Absolument.
Avec un chapeau et une brouette.
Mon Dieu. Eh bien, je crois que l'or... Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que tu...
C'est à toi de nous dire, je pense que oui.
Est-ce qu'il y a un dessin que tu n'as pas compris dans le journal ?
Cette fois-ci, non.
Ou tu dénonces ? Oui. Non ?
Je crois que... Non, je
vous invite
à regarder
les
dessins de risque qui accompagnent mon reportage.
Ah oui, ils sont très beaux.
Très beaux dessins.
Eh bien, nous allons vous quitter. Nous allons vous dire à la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.